بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Mes chers frères ici présents, mes chères sœurs qui nous regardent, toutes celles, tous ceux qui nous suivent à La Réunion, dans les DOM, dans les TOM, dans les îles avoisinantes, en France métropole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères, nous remercions Allah Ta'ala, le Très-Haut, qui nous a donné la possibilité de jeûner ce mois de Ramadan 2009 et de profiter, de bénéficier de toutes les bénédictions qui descendaient abondamment durant ce mois. Mes chers frères, nous rappelons que l'objectif de ce mois de dévotion, de ce mois de ferveur, c'était avant tout que chaque musulman et chaque musulmane se rapproche d'Allah, se rapproche de Dieu par le biais des bonnes œuvres. Un des objectifs restait également le fait que nous puissions renforcer la cohésion au sein de la communauté par le biais des actions communes, la prière en congrégation, le partage du repas de iftar, la rupture du jeûne, l'aumône et l'entraide aux plus démunis. Et mes chers frères, la maîtrise de soi, que chacun arrive à contrôler ses pulsions par le biais, bien sûr, de l'abstinence de la nourriture, mais également l'éloignement total de tout interdit. Ainsi, après le ramadan, en ce jour de Eid, notre obéissance et notre soumission à Dieu est devenue totale et nous permet de ressortir de ce ramadan grandi avec des acquis spirituels et des acquis en termes de comportement. Nous demandons à Allah d'accepter notre ramadan, d'accepter nos bonnes œuvres, nos invocations, nos doigts, que nos cœurs soient sincères et qu'Allah nous donne les qualités pour être encore plus proche de lui et plus proche des hommes. Mes chers frères, aujourd'hui, lundi 21 septembre 2009, à l'île de La Réunion, c'est le jour de Eid al-Fitr, un jour de fête. On retrouve la famille, on retrouve nos amis, dans ce climat de gaieté et de joie. En même temps, on est un peu triste, il faut l'avouer. Le ramadan est terminé. Toutes les bénédictions, les rahamat qui descendaient, sont également terminées. Mais laissez-moi vous annoncer une bonne nouvelle, mes chers frères. Dans un hadith, une narration d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il est dit qu'en ce jour précis, chaque Eid, chaque jour de fête, les anges lancent cet appel. Ya ummata Muhammad, ô musulmans de la communauté de Muhammad, ukhruju ila rabbin karim, allez à la rencontre de votre Seigneur, qui est bon et généreux. Yu'til jazil, il donne en quantité. Votre Dieu est généreux. Wa yaghfiru dhanba al'azim, et qui pardonne tous les péchés. Et mes chers frères, Allah répond à ses anges, ô mes anges, je vous prends en témoin que pour les récompenser de leur jeûne, leur abstinence, leur prière, je leur accorde ma grâce et mon pardon. Et Allah s'adresse à chaque musulman, in sarifu maghfuran lakum. Maintenant, je vous ai pardonné. Mes chers frères, soyons persuadés de la générosité d'Allah. Allah est bon, Dieu est amour, Allah est Rahman, Rahim, Allah est clément, Allah aime ses créatures. Oh Allah, aujourd'hui nous sommes réunis dans ta maison, uniquement pour rechercher votre contentement. Oh Allah, déversez sur chaque personne présente votre bénédiction et votre rahmah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Mes chers frères, nous devons remercier Allah de nous avoir accordé cette merveilleuse religion qu'est l'islam. L'islam permet à chaque musulman et chaque musulmane de vivre pleinement sa spiritualité, son rapport avec Allah. Il nous donne également un enseignement complet pour vivre avec toutes les qualités morales nécessaires au sein de la famille, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'adolescent, également au sein de la société, en tant que maillon composant, actif et citoyen modèle de cette société. Cela parce que les valeurs morales que l'islam nous enseigne, mes chers frères, ce sont là des valeurs universelles qui permettent à chaque musulman, chaque musulmane de vivre, quelles que soient les époques, quelles que soient les régions du monde, en parfaite harmonie, sans qu'il n'y ait de choc de culture ou de choc de civilisation. Car avant tout, mes chers frères, l'islam nous apprend à vivre en harmonie dans la société, vivre en paix avec son prochain. Un petit rappel historique, nous sommes en l'an 1 de l'Hégire, c'est-à-dire le calendrier islamique. Notre prophète Mahomet, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, s'installe à Médine. Et là, il retrouve les musulmans de la Mecque qui sont déjà installés à Médine, qu'on appelle les Muhajir. Il retrouve les habitants de Médine qui s'appellent les Ansar. Et parmi eux, les Aous, les Khazraj, deux tribus arabes très connues. Et cohabitent dans ce même lieu trois tribus de confession juive, les Banu Qaynuqa, Nadir et Quraïda. Et notre prophète va établir un pacte de paix avec ces trois tribus qui permettra à chacun de vivre en parfaite harmonie avec son prochain. Notre prophète a permis aux juifs et aux musulmans de cohabiter. Et c'est un message très fort pour tous les musulmans, à toutes les époques. Apprenons à vivre ensemble. Un autre exemple, peut-être un peu moins connu. Nous sommes en l'an 6 de l'Hégire. Notre prophète va prêcher aux tribus arabes des Banu Thaqif, qui se trouvent à Taïf. Non seulement cette population n'acceptera pas le message de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils vont l'exclure, l'expulser de la ville. Ils vont le chasser, l'agresser. Notre prophète est ensanglanté. L'ange Gabriel se présente à Mahomet. Ô Muhammad, si tu nous l'ordonnes, nous anéantissons cette population injuste entre les deux montagnes qu'on appelle Al-Arshabayn. Mes chers frères, le cœur de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est rempli d'amour pour l'humanité. Il n'a pas été envoyé pour semer la mort, mais pour la guider des hommes. Et notre prophète va dire, oh Allah, pardonne à ces gens injustes. Oh Allah, accorde la guider aux générations futures. Mes chers frères, si chacun parmi nous, musulmans, musulmanes, nous apprenions à vivre en pleine harmonie avec notre prochain, nous apprenions à pardonner, à passer sur l'erreur de l'autre, assurément, nous nous porterions mieux, l'islam serait mieux et toute la société se porterait mieux. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Et mes chers frères, comment espérer le pardon d'Allah? Comment peut-on souhaiter la clémence de Dieu si nous-mêmes, nous ne faisons pas preuve de compassion envers notre prochain? Mes chers frères, autre point très important, on parlait de cohabitation entre les religions. C'est un motif de fierté pour toute société. C'est également une condition pour que la cité vive des joies tranquilles. À La Réunion, nous avons la chance de voir toutes les grandes religions cohabiter, vivre leur foi dans un espace réduit, qu'ils se partagent dans un respect mutuel. Nous pouvons en être fiers. Un cocorico, on pourrait dire, à la sauce créole. Vraiment, à La Réunion, nous avons un acquis que nous devons protéger, préserver, mais surtout transmettre aux futures générations. Parce que, mes chers frères, cette ouverture d'esprit, cette tolérance, l'acceptation de l'autre avec ses différences, c'est une qualité que chaque réunionnais, chaque réunionnaise a toujours eue dans son cœur depuis les premiers jours de l'islam. Et mes chers frères, la relation entre musulmans et chrétiens a toujours été très forte. Une petite anecdote. Nous sommes sous l'Empire Omeyyade. Une délégation chrétienne de Damas va voir le calife Omar bin Abdelaziz. Omar, les musulmans de Damas, dirigés par ton ministre Al-Wali bin Abdelmalik, a détruit notre église. Il a fait construire à la place l'agrandissement de la mosquée Omeyyade, mosquée qui existe toujours d'ailleurs. Omar, furieux, il ne supporte pas l'injustice, convoque son ministre. Je vous ordonne de détruire cet agrandissement de la mosquée et de réparer l'erreur commise contre la population chrétienne. Alors évidemment, la communauté musulmane de Syrie essaie de dissuader Omar, mais Omar restera ferme. Mes chers frères, retenons, il n'y a pas de foi possible, il n'y a pas de relation sincère possible avec Allah, avec Dieu, si on ne respecte pas nos prochains. Et quand on parle de respect, de pardon, de cohabitation, d'amour, mes chers frères, il n'y a pas de distinction entre ceux qui partagent votre foi et ceux qui ne partagent pas votre foi. Nous restons des hommes avec nos qualités et nos défauts. Et Allah, il connaît nos défauts. Mes chers frères, nous disons donc que La Réunion a une avance dans ce domaine. C'est entre autres par rapport au fait que chaque personne à La Réunion, quelles que soient ses confessions, qu'on soit musulman, chrétien, catholique, hindou, malbar, bouddhiste ou autre, chaque individu a toujours eu la possibilité de pratiquer sa religion librement, sans qu'il n'y ait d'interdit. C'est un peu la recette à la créole de notre bon vivre ensemble. Et pour que cet équilibre parfait perdure de le temps et que nous réunionnais, notre situation à La Réunion reste un exemple pour les autres îles, pour la métropole, il ne faut surtout pas changer cette recette magique à coup de décret ou à coup de loi qui frustrerait des populations. Mes chers frères, nous avons une avance de la cohabitation des religions à La Réunion, mais tout n'est pas rose. Nous avons en contrepartie un grave problème de société à La Réunion, la maltraitance des femmes. Il faut en parler, mes chers frères. Le nombre de cas de femmes battues à La Réunion dépasse les statistiques en métropole et en Europe. Il y a un réel problème de la société. Et nous devons en trouver les raisons pour essayer d'apporter les solutions. Et nous ne parlons même pas de ces pauvres femmes qui se font lâchement assassinées, tuées par des ex, par des conjoints, jaloux, frustrés d'une séparation. Mes chers frères, même s'il n'y avait qu'un seul cas de femme battue ou qu'un seul cas de femme assassinée à La Réunion par an, ce serait déjà un cas de trop. Mes chers frères, comment est-ce qu'un homme peut frapper une femme? Comment un bougue peut taper son femme? Ce n'est pas possible. Allah dit dans le Coran, « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf » et comportez-vous convenablement envers elle. Ce problème, mes chers frères, les politiciens doivent s'investir. Dans ce problème, les acteurs sociaux doivent s'investir, mais également les responsables religieux à travers les prêches, toute confession, toute religion confondue, sensibiliser la population sur ce grave problème de société. On vous rappellera que l'anecdote de Anas bin Malik, qui a vécu toute sa vie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Je n'ai jamais vu le prophète frapper une femme, ni un enfant, ni brutaliser quelqu'un qui travaillait sous sa coupe, ni même faire une reproche pour une erreur ou pour une omission. » Mes chers frères, si nous en tant que musulmans, nous prétendons vouloir faire revivre le modèle prophétique dans notre vie, on peut se poser la question, quel intérêt d'être régulier à la mosquée, dans les premiers rangs, d'avoir de beaux habits, rallonger sa barbe, mais si en contrepartie, dans notre relation avec notre femme à la maison, on ne sait pas faire revivre le modèle prophétique. Et notre prophète nous a enseigné comment un homme doit respecter sa femme, comment un homme doit aimer sa femme. Scène de ménage. Aïcha s'emporte sous le toit du prophète. Ça arrive à tout le monde. Les scènes de ménage, ça fait partie des choses de la vie. Dans la gestion des conflits, c'est là qu'on distingue celui qui a la foi. Aïcha s'empare d'un récipient de nourriture. Elle jette le récipient et la nourriture s'éparpille. Notre prophète ne va pas l'insulter, encore moins frapper Aïcha. Il va se baisser et ramasser les débris. Il a reconnu la faiblesse, l'accès de colère de Aïcha et il laissera à Aïcha le temps de réfléchir sur ce qu'elle a fait et de revenir. C'est merveilleux, mes chers frères. Cet exemple que le prophète nous a donné, c'est exceptionnel. Dans l'islam, un père n'a pas le droit de marier sa fille sans son consentement. Une femme a le droit de demander le divorce si elle se sent lésée. Le qadi, ou le mufti comme on veut l'appeler, il est en droit de dissoudre les liens du mariage si la vie de cette femme est en danger. On ne frappe pas une femme de l'islam. La beauté physique n'est pas le seul critère de sélection chez une femme. Dans notre société, il faut être clair, celle qui est courte, bien portante, la démarche lourde et vacillante, aura moins de chances dans la vie que celle qui obéit aux exigences discriminatoires des concours de beauté. On fait le tri de la gente féminine. Est-ce normal? Est-ce là le respect pour la femme? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec une femme pauvre, d'origine modeste, plus âgée que lui. Elle avait 50 ans. Mais cette femme avait le cœur rempli d'amour pour Dieu. Elle était soumise à Allah. Et notre prophète a regardé sa foi avant de regarder sa beauté physique. Et dernier point, mes chers frères, sachons rester fermes dans notre pratique après le ramadan. Le monde dans lequel nous vivons est un monde éphémère, trompeur par ses paillettes, ses jeux de lumière. Mes chers frères, cette société qui est inondée par la mondialisation nous inculque des valeurs qui ne sont ni les valeurs de l'islam, ni les valeurs des réunionnais, les créoles longtemps. Vous savez, de nos jours, tout le monde se connecte à Internet, le haut débit, on a tous le téléchargement illimité à la maison. Mais on oublie de se connecter 5 minutes à Dieu par jour pour nos prières. Est-ce normal? Mes chers frères, nous allons passer des heures sur MSN avec des gens qu'on ne connaît même pas. Ils habitent dans une région, peut-être qu'on ne visitera même pas cette région. Mais on ne salue pas notre voisin de palier. C'est normal. Mes chers frères, sur Facebook, on se fera des amis dans le monde entier. On y livrera nos sentiments. On commentera le sentiment des autres. On aimera, on n'aimera pas. On ne refusera jamais une demande d'amitié venant de quelqu'un de l'extérieur pour ne pas frustrer la personne. Mais en contrepartie, on oublie celle qui nous a mis au monde, celle qui nous a fait grandir. Est-ce là des valeurs humaines? Nous allons voir à la télé des spots publicitaires pour les énergies renouvelables, pour que les vacanciers n'abandonnent plus leurs animaux de compagnie. Mais mes chers frères, ces enfants, ces adolescents qui abandonnent leurs parents lâchement dans des maisons de retraite lorsqu'ils deviennent âgés, vous pensez que ce sont là les vraies valeurs de la société? Je vous assure, à travers ces valeurs envahies par la mondialisation, ni les créoles longtemps, ni le CAF, ni les arabes, ni le malbar, personne ne se reconnaît à travers ces valeurs. Drôle de société. Ce sont là des valeurs individualistes où c'est l'émancipation de soi, la réussite professionnelle qui est privilégiée aux dépens des valeurs humaines. Et cela, mes chers frères, nous fait oublier un rendez-vous important auquel aucun homme ne pourra échapper. Le retour vers Dieu. « Kullu nafsin dha'iqatul maut » Chaque âme goûtera la mort. La mort fait peur. Dans notre société, on n'en parle pas. C'est un sujet tabou. C'est l'inconnu. Dans l'islam, l'essentiel des textes a pour but de préparer l'homme à son retour vers Allah. Mes chers frères, en conclusion, l'islam nous a légué un enseignement riche, complet, pour développer notre relation avec Allah et mener à bien notre rôle dans la société en tant que citoyen. Sachons nous raccrocher aux textes du Coran, au modèle prophétique. Sachons faire revivre ces valeurs morales en tant que père, en tant que mère, en tant que citoyen, et pas seulement à la mosquée. Pardon. Ô Allah, en ce jour béni de Eid al-Fitr, nous vous demandons d'accepter notre Ramadan, d'accepter nos prières, nos efforts, nos invocations. Ya Sami' al-Dua. Ô Allah, pardonnez nos erreurs, pardonnez nos faiblesses, nos manquements. Ya Ghafour, ya Karim. Ô Allah, donnez à chaque musulman et chaque musulmane la force de rester ferme et constant dans votre adoration. Ya Rabbal Alamin. Ô Allah, accordez la santé aux personnes malades, toutes confessions confondues. Ces personnes qui souffrent dans les hôpitaux, ces personnes qui souffrent à leur domicile, ceux et celles qui ne peuvent pas partager ces moments de joie. Anta shafi, la shifa illa shifa'uk, shifa alla yughadiru saqama. Ô Allah, protégez notre île de toutes les maladies, de tous les virus, éloignez les choses mauvaises de notre île. Ô Allah, nous vous demandons, en ce jour béni, de renforcer l'entente, la mahabba, la mawadda dans les couples, dans les familles, dans les relations entre générations et surtout entre parents et adolescents. Ya Wadud ou Ya Rahim, et renforcer l'amitié entre les différentes communautés qui cohabitent à La Réunion et d'une manière générale les différentes populations dans le monde, à La Réunion, dans les Dom-Tom, à la métropole. Allahumma ja'al hadha al-balada amina mutma'inna ya rabbal alamin. Et donner, ya Allah, à chaque musulman, chaque musulmane, les qualités des vrais musulmans, que nous soyons de dignes porte-drapeaux de l'islam, un islam ouvert sur son prochain, un islam tolérant, un islam authentique dans le culte et surtout dans les valeurs humaines. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous souhaite à toutes et à tous un Eid Mubarak, un joyeux Eid, beaucoup de bénédictions à nos co-religionnaires présents bien sûr, mais également à toute la population réunionnaise. Amin. Je vous remercie de votre attention. وما توفيقي إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et maintenant, nous allons laisser la place à Mouli Mohamed Bagat qui va officier donc la prière de Eid.